France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Joséphine Reynard et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. C'est le deuxième épisode de notre série sur le Canada où Marc Carney vient de donner un quatrième mandat de suite au Parti libéral. Il succède à Justin Trudeau. Marc Carney élu avec 43,5% des voix. Son discours il y a une heure à Ottawa.
L'une des responsabilités du gouvernement est de se préparer au pire et non d'espérer le meilleur. L'Amérique veut notre terre, nos ressources, notre eau, notre pays. Jamais. Nous devons reconnaître la réalité selon laquelle notre monde a fondamentalement changé. En prenant la parole devant vous ce soir, j'ai également l'humilité de reconnaître que même si de nombreuses personnes ont choisi de me faire confiance, des millions de nos concitoyens auraient préféré une issue différente. Et mon message à tous les Canadiens est le suivant. Peu importe où vous vivez, quelle que soit la langue que vous parlez, quelle que soit la façon dont vous avez voté, je ferai toujours de mon mieux pour représenter tous ceux qui appellent le Canada leur pays.
Marc Carney, donné vainqueur des élections fédérales au Canada, le candidat du Parti libéral remporte donc 43,5% des voix devant son grand rival Pierre Poilievre du Parti conservateur, lequel rassemble 41,4% des voix d'après les chiffres encore non définitifs mais néanmoins déjà annoncés comme tels et très serrés. Il y a encore 4 mois, pourtant, au moment de la démission de Justin Trudeau début janvier, les libéraux étaient 20 points derrière le Parti conservateur dans les études d'opinion. Marc Carney, Justin Trudeau, Pierre Poilievre, vous voulez un peu varier les patronymes de l'actualité internationale, mais voilà que celui de Donald Trump revient par la fenêtre, l'éléphant dans la pièce, celui qui a très certainement contribué à mettre le débat politique canadien sans dessus-dessous avec ses taxes douanières et son insistance à dire à son voisin du Nord qu'il ferait un bien beau 51e État. Marc Carney l'a d'ailleurs dit dans son discours ce matin, le président Trump essaie de nous détruire pour que l'Amérique puisse nous posséder. Cela n'arrivera jamais. Face à de telles outrances, les questions qui concernent pourtant le quotidien des Canadiens, inflation, logement, impôts, semblent avoir pris moins d'importance, tout comme le bilan de Justin Trudeau, qui gouvernait le Canada depuis 2015, jusqu'à sa démission en janvier dernier, remplacé donc en intérim par Marc Carney, par le vote de son parti et aujourd'hui d'une courte majorité de Canadiens. Alors avec le décalage horaire, c'est un peu comme si on prolongeait la soirée électorale de Radio-Canada sans le réseau de correspondants sur place, mais avec de très bon politiste et spécialiste. Bonjour Philippe Chassé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorant en sciences politiques à Sciences Po et à l'Université de Montréal. Nous sommes également en duplex depuis Bruxelles. Ça change avec Serge Jomin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur ordinaire, comme on dit, d'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles, directeur du Centre interdisciplinaire d'études des Amériques et président du conseil scientifique de l'Institut des Amériques. Vous êtes en duplex depuis Bruxelles grâce aux moyens de Pierre Benazet, que je remercie. Alors, une fois n'est pas coutume, on peut commencer par un rapide examen à chaud, comme on dit, des scores tels qu'on les connaît à 7 heures. Serge Jomin, Radio-Canada actualise le décompte toutes les 30 secondes sur son site, en précisant encore qu'il s'agit de résultats non officiels, puisque 315 sièges ont été pourvus et il y a 343 circonscriptions, et que le statut élu ou défait est sa propre prévision. Néanmoins, les scores n'évoluent plus depuis maintenant plus d'une heure, et Marc Carney a été félicité de toutes parts. Sur le tableau général, entre guillemets, Serge Jomin, qu'est-ce qui vous semble important, là, dans un premier temps, les premières secondes à dire ?
Alors je pense ce que vous avez souligné en introduction de manière très juste, c'est que fin du mois de décembre, on s'attendait à une victoire de Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur, et je dirais d'avoir finalement une Amérique du Nord très conservatrice avec Donald Trump, Pierre Poilievre, que certains ont parfois considéré comme une sorte de petit Trump canadien avec des positions souvent très populistes, très conservatrices, et aujourd'hui, eh bien, on est dans un paysage tout à fait différent, puisque vous venez bien de le souligner, Marc Carney, qui a le leader du Parti libéral, qui a pris la place en quelque sorte de Justin Trudeau, qui était très déconsidéré, a réussi à faire à son parti ce qu'on pourrait appeler en football une sorte de remontada. Hein, vous l'avez souligné, le parti était en dessous de la barre des 20% à la fin de l'année, et puis là, il est aux alentours autour de 43%. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de la campagne électorale, il stagne les intentions de vote stagnent autour de 42-43%. Et Marc Carney va jouer un rôle important, prochain Premier ministre. Il était Premier ministre puisqu'il avait remplacé pour les dernières semaines, je dirais, Justin Trudeau. C'est un banquier qui a été gouverneur de la Banque nationale du Canada et puis également de la Banque d'Angleterre, mais qui n'a quasi aucune expérience politique. Il n'a jamais été élu, mais il a géré toute une série de crises. Alors, pour venir à votre question, les résultats aujourd'hui, on voit effectivement une victoire des libéraux avec, si les dernières informations se confirment, aux alentours de 168 sièges pour les libéraux et 144 pour les conservateurs. C'est un résultat inattendu, je dirais, lorsque l'on se place au mois de décembre, mais depuis le début de la campagne électorale, il y a une trentaine de jours, c'était ce qui se dessinait. Alors, 168 sièges pour les libéraux, ça signifie qu'ils sont à 4 sièges de la majorité absolue qui leur permettrait de faire un gouvernement majoritaire. Ce ne sera sans doute pas le cas. Et donc, ils vont devoir aller chercher un des autres partis, soit le Bloc québécois, qui lui est passé à 23 sièges, il a perdu 10 sièges, soit le NPD, qui est le parti de gauche, du centre-gauche, qui lui a connu une très grosse défaite électorale, puisqu'il est passé de 24 à 7 sièges.
De 24 à 7 sièges, et d'ailleurs Jagmeet Singh, qu'on entendra tout à l'heure, a démissionné. Son chef, c'était les partenaires de la coalition de Justin Trudeau jusqu'en septembre 2024. Ils ont ensuite le parti NPD a quitté la coalition. Peut-être Philippe Chassé sur, pareil, une vision un peu générale des choses. Serge Jomin disait que celui qui vient d'être élu ne l'avait encore jamais été. Il vient d'obtenir un mandat. Néanmoins, il disait qu'il voulait asseoir sa légitimité, être aussi un homme fort, diriger un Canada fort. Est-ce qu'il a aujourd'hui la victoire humble?
C'est assez intéressant, en fait, parce que dans les dernières semaines, si on regardait les sondages, mais aussi les prévisions, on pouvait s'attendre peut-être, les libéraux commençaient à espérer avoir un gouvernement majoritaire, qui lui donnait peut-être des coups un peu plus franches pour diriger au cours des prochaines années. Finalement, on est toujours proche des estimations qu'il pouvait y avoir dans les sondages, mais le Parti conservateur a un petit peu mieux performé que prévu, notamment en Ontario. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard dans l'émission. Mais à cet égard, il faut que M. Carney tienne compte du fait que le Parti conservateur a reçu aussi environ le 42% des votes, donc une partie importante de l'électorat, et devra diriger pour tous les Canadiens. Et je crois également que les Canadiens, c'est un peu à quoi ils s'attendent en ce moment, parce qu'on doit répondre justement à ses voisins états-uniens qui nous menacent d'annexion, qui nous menacent d'une guerre tarifaire. Donc, je pense que M. Carney va devoir diriger pour tous les Canadiens. Et c'est aussi justement avec cette dualité-là, dans le fond, on le voit, deux partis, vraiment un électorat qui est assez divisé. C'est assez nouveau parce que normalement, les autres partis politiques, par exemple, le nouveau Parti démocratique avait une performance un petit peu plus élevée.
Le Parti démocratique, donc ce qu'on appelle la gauche canadienne.
Exact. Et pour le Bloc québécois aussi. Donc là, vraiment, on a un électorat qui se divise davantage en deux partis. Donc, vraiment, ça va être de retisser des liens entre les citoyens canadiens.
Le Bloc québécois porté pour ces élections par Yves-François Blanchet et qui réalise un score de 6,4% d'après 6,4%. Si, je suis toujours sur le site de Radio-Canada et comme c'est actualisé en temps direct. Voilà. Alors, juste, vous parliez de l'Ontario, vous avez commencé à évoquer quelques provinces. Le Parti conservateur a néanmoins conservé son socle électoral dans les régions les plus conservatrices. En France, on parle de la France des campagnes, la France des villes, la France des métropoles. Au Canada, on parle du Canada des prairies qui reste conservateur.
Oui, tout à fait. C'est un point, je crois, que vous avez abordé hier dans l'émission avec Mme Modeste en fin d'émission. Mais oui, les prairies canadiennes sont de tendance plus conservatrice. Donc, c'est une tendance qu'on observe depuis les années 80, puisqu'à l'époque, le père de Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, avait mis en place une politique d'énergie qui avait été très impopulaire auprès des électeurs de l'Alberta, mais aussi de la Saskatchewan, qui se sont sentis floués. En fait, cette politique-là, c'était de vendre à rabais le pétrole qui était produit dans l'Ouest aux provinces de l'Est, ce qui a donné cette impression qu'au Canada, les décisions étaient prises dans l'Est du pays, donc au Québec et en Ontario. Et depuis les années 80, c'est vrai qu'on a de la difficulté le Parti libéral a de la difficulté à élire des candidats politiques dans les circonscriptions de ces provinces.
Parmi les résultats très scrutés, par exemple, cette nuit, il y avait ceux de la ville natale de Pierre Poilievre, le candidat du Parti conservateur. Cette ville, c'est Calgary, 1 470 000 habitants, qui n'élit presque jamais de libéraux et qui est restée conservatrice d'après les derniers résultats. Alors, c'est un petit soulagement pour Pierre Poilievre qui, en revanche, a perdu la partie pour le Canada.
Je vous ai entendu et j'ai apporté vos histoires avec moi tout au long de cette campagne. Et vos histoires vont rester avec moi lorsque je me batte avec mon équipe conservatrice pour vous défendre et pour avancer vos intérêts. À ceux qui ont désespéré besoin de changement, je sais que vous êtes déçus. Le changement est difficile et ça prend du temps. Surtout, ça veut dire qu'on peut jamais lâcher. Parce que notre pays et son peuple méritent qu'on se batte pour eux. I will never give up on fighting
je
for everyone who stood with us today.
Je continuerai à me battre pour tous ceux qui se sont tenus avec nous aujourd'hui et les millions de gens qui ont voté pour les autres partis.
Au Canada, on passe très facilement du français à l'anglais et vice-versa. Pierre Poilievre, c'était il y a 2 heures dans son discours reconnaissant sa défaite au Canada. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Serge Jomin, qu'on l'appelle le petit Trump, le Donald Trump du Nord, le Donald Trump au sirop d'érable. Les Canadiens ne manquent pas de périphrases pour désigner celui qui n'hésite pas à user, qui n'a pas hésité pendant la campagne à user de l'invective, de l'insulte vis-à-vis de ses rivaux politiques, nécessairement stupide, faible, vendu à des puissances étrangères. Ces t-shirts Axe the Tax, coupés dans les taxes, comment expliquer que ce qui marche très bien ailleurs, en tout cas juste de l'autre côté de la frontière, n'est cette fois pas pris au Canada, Serge Jomin?
Alors, comme on le disait tout à l'heure, ça a failli prendre. Donc, au mois de décembre, il était très clairement en tête des sondages. Et finalement, il fait tout de même un score assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on vient de souligner, je pense, un peu plus de 41%. C'est tout de même pas mal. On est dans un système, dans un scrutin majoritaire uninominal à un tour, qui fait que les résultats en termes de voix ne sont pas toujours les mêmes qu'en termes de sièges. Mais ici, il faut aussi souligner que si effectivement il a perdu la partie, il a tout de même, son parti, comme on l'a souligné tout à l'heure, a tout de même gagné 24 sièges en plus. Et il y a quelque chose là de particulier, c'est que c'est lui qui fait la plus grande remontée. Alors, j'ai parlé de remontada tout à l'heure pour les libéraux, mais c'était par rapport aux sondages. Ici, ils n'ont finalement que quelques, je pense il y a 16 sièges en plus, mais les conservateurs, c'est de ce point de vue-là, c'est beaucoup mieux. Ce qui est intéressant, c'est que les deux partis qui sont vraiment défaits dans ces élections, c'est-à-dire le Bloc québécois et le NPD, ben, c'est dans un de ces deux partis qu'il va falloir trouver les voix pour obtenir la majorité au Parlement, puisque on aura, on l'a dit, un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui sera composé uniquement de ministres libéraux, mais qui, sur toute une série de dossiers, dossier vont devoir aller chercher les voix d'un de ces deux partis. Et alors, pour répondre donc bien sûr à votre question, la particularité, ce qui explique l'évolution, on l'a souligné, c'est bien sûr les stratégies de Donald Trump qui a eu pour effet de titiller en quelque sorte le nationalisme canadien, mais aussi qui a eu pour effet qu'un certain nombre de Canadiens se sont rendus compte qu'ils risquaient de perdre leur emploi du fait des taxes américaines. Et donc, ceci a provoqué un mouvement de forte inquiétude. Et c'est probablement ceci qui a conduit un certain nombre d'électeurs, probablement peut-être du Bloc québécois et du NPD, à se diriger davantage vers les libéraux. D'une certaine façon, Pierre Poilievre a mené une campagne finalement assez correcte. Certains observateurs pensaient qu'il devrait démissionner après l'élection parce qu'il n'avait pas réussi à obtenir la victoire pour son parti, mais finalement le résultat des conservateurs montre qu'il représente une certaine tendance tout de même assez forte du Canada, et notamment, comme vous l'avez dit, du centre du Canada.
Et ce, malgré le style entre guillemets de Pierre Poilievre, Philippe Chassé, un style dont on n'a pas vraiment l'habitude au Canada, que les électeurs ont pu pour certains désavouer et pour d'autres plébisciter.
Oui, tout à fait. En fait, le Canada est un pays où, pour les Français, généralement, c'est vrai qu'on a l'impression que le Canada est un pays où tout va toujours bien. On a eu des grands débats de société au Canada, mais généralement, une tradition en politique canadienne, c'est un certain respect entre les différents chefs de partis politiques. C'est assez attendu. Et M. Poilievre se distinguait de ses prédécesseurs un peu par ce ton un peu plus hargneux à l'égard de ses opposants, qui était un peu nouveau en politique canadienne, qui pouvait surprendre au début. Vous l'avez mentionné, hein, il y avait ces slogans choc aussi, mais il y avait des attaques répétées contre M. Trudeau, par exemple. Donc, il y avait ce lien assez clair qui était fait entre, par exemple, l'inflation et M. Trudeau. Donc, c'était la just inflation, juste inflation. Donc, vraiment des attaques très ciblées.
Du prénom de l'ancien premier ministre.
Voilà, exact. Et aussi sur les autres formations politiques. Et ça, ben, historiquement, c'est assez surprenant parce que c'est vrai que les électeurs canadiens ne semblaient pas apprécier les candidats politiques qui faisaient preuve de campagne négative.
Le Parti conservateur en avait fait les frais en 93, d'ailleurs.
Oui, voilà. Donc, il y a eu cette campagne négative contre M. Chrétien. Hein, donc, on avait ridiculisé...
Jean Chrétien, c'était le candidat du Parti libéral à l'époque.
Et on avait ridiculisé un petit peu sa paralysie au niveau de la bouche. Et les électeurs canadiens avaient très mal pris cette attaque négative-là.
Donc, il a atteint de la maladie de Bell. Donc, en effet, il a une paralysie de la bouche. Et on s'était moqué de lui en disant ça montre son immobilisme ou quelque chose comme ça. Les électeurs n'avaient pas du tout apprécié.
Tout à fait. Donc, c'était une stratégie un peu surprenante au début de la part de M. Poilievre.
Tout comme le style de M. Poilievre et sa façon de parler à ses rivaux, mais aussi tout simplement la façon dont il fait de la politique, ne plaît pas au sein du Parti conservateur. Certains ont quitté le parti quand Pierre Poilievre l'a emporté sur Jean Charest pour prendre la tête du parti très récemment.
Oui, c'était une course à la chefferie du Parti conservateur qui a été assez animée. Donc, certains débats où même M. Charest et M. Poilievre ne s'étaient pas serré la main. Donc, au sein même d'un parti politique, c'est plutôt rare en politique canadienne. Généralement, on est assez unis au sein du parti, ou du moins, on fait semblant qu'on est unis.
Tout est hors de contrôle. Le coût de logement, hors de contrôle. On parlait de l'inflation, hors de contrôle. Les déficits, hors de contrôle. Tout est hors de contrôle avec le doublement de notre dette. L'immigration, hors de contrôle. La frontière, hors de contrôle. Une politique de criminalité qui a causé une crise de crime, hors de contrôle.
Pierre Poilievre avant les élections, pendant la campagne. C'est vrai, Serge Chaumin, quand on l'entend, peut-être que sa façon de parler choque au Canada certains, en tout cas les électeurs du Parti libéral. Mais nous, d'ici, on n'entend pas tellement la ressemblance avec Donald Trump. En quoi était-il comparé à Donald Trump?
Alors, comme on vient bien de le souligner, la course au leadership dans son parti a montré que c'était l'aile la plus radicale, la plus conservatrice qui gagnait les élections. Il faut savoir qu'il s'est fait connaître notamment lors du fameux convoi de la liberté. On se rappelle sans doute ici en Europe de ces camions qui ont occupé Ottawa pendant plusieurs semaines, ont bloqué 2022. La capitale fédérale, et il s'est fait connaître là par sa radicalité. Aussi, il s'est opposé à un certain nombre de politiques menées au moment du Covid. Et donc, c'est cet ensemble d'éléments, ainsi que le discours que l'on vient d'entendre, qui montre qu'il a privilégié des positions souvent très radicales. Alors, évidemment, il n'est pas encore dans les outrances de Donald Trump, mais très clairement, c'est un populiste, et il s'est attaqué ici, on vient de l'entendre dans son intervention, notamment aux questions d'immigration. Il faut savoir que Justin Trudeau avait promis d'augmenter le seuil d'accueil des migrants, et donc ici c'est quelque chose qui touche beaucoup les Canadiens. On l'a souligné, il y a la question du logement qui est directement liée pour un certain nombre d'observateurs à la question de l'immigration, dans le sens où certains Canadiens ont un peu de mal à se trouver un logement du fait de cette migration. Et donc, Pierre Poilievre a utilisé ces éléments. Ce qui est particulier, finalement, c'est que Donald Trump aurait pu avoir un allié idéal au Canada. Et en fait, finalement, il va se retrouver avec Marc Carney. Dernier élément, on l'a souligné au début, mais c'est tout de même important d'indiquer que à partir du moment où on a la liste des commentaires, des critiques que Pierre Poilievre fait, ben finalement on se dit un banquier, quelqu'un qui connaît bien l'économie, c'est peut-être la solution idéale pour le Canada, et c'est probablement ce qu'un certain nombre d'électeurs se sont dit.
Ce qu'on peut noter, c'est que Donald Trump, en tout cas si on compare Pierre Poilievre à Donald Trump n'a pas appelé à voter pour Pierre Poilievre, à ma connaissance. Il a appelé à voter pour lui-même. Élisez l'homme qui aura la force et la sagesse de réduire vos impôts de moitié, d'augmenter gratuitement votre puissance militaire jusqu'au plus haut niveau mondial, etc. Si le Canada devient le 51e État tant chéri des États-Unis d'Amérique, eh bien, vous n'aurez plus aucun droit de douane, aucune taxe, etc., etc. Donc, il a poussé l'outrance jusque-là. Il n'a pas appelé à voter pour Pierre Poilievre. Il y a quand même peut-être des différences dans certains dossiers. On peut noter, Philippe Chassé, que Pierre Poilievre, sur la question de l'immigration par exemple, à la fois de par le contexte du Canada mais par sa situation personnelle, n'est pas aussi virulent que Donald Trump.
Oui, tout à fait. Donc au Canada, ça évolue un petit peu au cours des dernières années, notamment avec ce qui a été mentionné par rapport à la crise du logement, hein, qui, et les personnes issues de l'immigration ont été un petit peu accusées d'être à la cause de cette crise du logement par certains acteurs au Canada.
Et on parle là aussi de l'immigration européenne, mais on fera un épisode entier sur cette question jeudi.
Entre autres, mais il est vrai que de manière générale, l'opinion publique à l'égard de l'immigration est très positive au Canada. Donc lorsqu'on regardait des sondages dans les dernières années, on pouvait voir que le Canada était un des pays où l'opinion publique était le plus favorable par rapport à l'immigration. Et c'était quelque chose qu'on remarquait à la fois chez les électeurs à droite et les électeurs à gauche. Évidemment, une propension à être plus favorable à l'immigration chez les électeurs de gauche légère, mais c'était quand même un enjeu qui avait consensus au Canada. Donc vraiment, la plupart des individus considéraient que l'immigration représentait une ressource pour le pays, donc un aspect positif.
Donc, Pierre Poilievre associé néanmoins à Donald Trump, en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire qu'il paye, même si ses résultats sont quand même donc 133 élus pour l'instant, 11 en tête, 144 sièges remportés, donc des scores honorables pour le parti conservateur, même s'il ne le remporte pas, en quelque sorte, est-ce qu'il paye le soin qu'il a mis à ressembler à Donald Trump? La guerre commerciale, les déclarations du président américain se sont en quelque sorte retournées contre lui?
Ça me semble être le cas. J'ai surtout l'impression que beaucoup de Canadiens, donc des électeurs du NPD, des électeurs du Bloc québécois, n'ont pas voulu de M. Poilievre et se sont rangés derrière M. Carney. Peut-être que la remontée de M. Poilievre s'explique par le fait que les gens qui, à un certain moment, lorsqu'on les sondait, affirmaient vouloir voter pour le Parti conservateur, ont été tentés par M. Carney, et peut-être sont-ils, donc, c'est se prononcer peut-être un peu tôt, mais peut-être sont-ils retournés vers le Parti conservateur. Mais on a bien vu chez les électeurs du NPD, donc Nouveau Parti démocratique, le Parti de gauche et le Bloc québécois, vraiment cette propension-là à appuyer les libéraux simplement pour empêcher M. Poilievre d'être élu et d'être le Premier ministre du Canada.
Et Serge Jomin, est-ce qu'il existe des liens objectifs entre Pierre Poilievre et Donald Trump? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils ont des réseaux communs, en quelques mots?
Alors non, je n'ai pas la connaissance de réseaux communs, et comme vous l'avez dit, en fait, Donald Trump n'a finalement pas fait grand-chose pour Pierre Poilievre. Il s'est même, lui et Elon Musk, se sont même en quelque sorte distancés de lui, ce qui est tout de même un petit peu particulier. Ce qui est important à souligner, c'est vraiment cet élément on a un parti conservateur qui certes a perdu l'élection ici, mais quand on regarde sur le long terme, ce n'est pas encore l'ensemble des chiffres, mais c'est une belle remontée pour les conservateurs. Il y a longtemps qu'ils n'ont plus obtenu un tel score. Et donc, ce qui s'est passé, comme cela vient très bien d'être souligné, c'est que c'est probablement un certain nombre d'électeurs du Bloc québécois et du NPD qui se sont dirigés vers les libéraux, parce que, justement, à partir du moment où on a une personnalité comme Donald Trump, on s'est dit autant avoir quelqu'un qui est en mesure de lui répondre, et on voyait que finalement un populiste face à un autre populiste, ce n'est peut-être pas la meilleure solution, et donc on peut penser que c'est un des éléments qui a poussé un certain nombre d'électeurs canadiens à agir ainsi. Le problème aujourd'hui pour le Canada, c'est que les libéraux savourent leur victoire, mais il faut se rendre compte que ça va être très difficile pour le nouveau premier ministre de trouver une manière de fonctionner. Je vous disais tout à l'heure qu'il pourrait travailler éventuellement avec le Bloc québécois ou avec le NPD. Il faut savoir que le NPD, le Nouveau Parti démocrate, il a soutenu Justin Trudeau au cours des dernières années. C'est d'ailleurs l'un des gouvernements minoritaires qui a tenu le plus longtemps, parce qu'il faut avoir en tête que généralement les gouvernements minoritaires tiennent 1 ou 2 ans au Canada, pas davantage. Ici, il a tenu près de 4 ans. Mais ce qui est intéressant, ce sera de voir comment Marc Carney va réagir, parce que s'il va chercher le plus gros parti, le troisième parti, c'est-à-dire le Bloc québécois, il va évidemment mécontenter le centre du Canada, qui trouve déjà que l'on en fait beaucoup pour l'Est du Canada, parce qu'il faut se rendre compte que ce vote conservateur dans les prairies, c'est notamment un vote contre l'Est du Canada, en estimant que finalement on pourrait avoir davantage de relations vis-à-vis, par exemple, des États-Unis. Et quand on voit la géographie, il est évident que quand vous vivez au centre du Canada, vous êtes plus proche de certaines villes américaines que de Ottawa.
Donc, vous parliez du Bloc québécois qui est arrivé troisième pour l'instant à ces élections avec 23 sièges. En quatrième position arrive le NPD, ce nouveau parti démocratique, la gauche canadienne, comme on l'appelle, qui avait été en 2011 porté par une vague d'enthousiasme qui l'avait hissé au rang d'opposition officielle avec plus de 30% des voix aux élections cette année-là, qui était ensuite devenu partenaire de la coalition de Justin Trudeau jusqu'en septembre 2024, date à laquelle il avait finalement décidé de quitter cette coalition, et qui aujourd'hui réalise des scores tellement décevants avec 7 sièges remportés que son chef Shagmeet Singh a annoncé ce matin sa démission.
We may lose sometimes and those losses hurt, you know, it's tough. But we are only defeated if we stop fighting.
Il arrive que nous perdions et ces défaites font mal. C'est difficile. Mais nous ne sommes vaincus que si nous arrêtons de nous battre. Nous ne sommes vaincus que lorsque nous croyons ceux qui nous disent que nous ne pouvons jamais rêver d'un Canada meilleur, plus juste, plus compatissant. J'ai rencontré des néo-démocrates d'un océan à l'autre qui ne reculeront jamais, même quand on leur dit qu'il n'y a pas de place pour eux à la table. Nous faisons de la place pour tout le monde parce que nous croyons qu'il y a assez de richesses au Canada pour que nous puissions tous vivre la vie que nous méritons.
Est-ce que vous estimez, Philippe Chassé, qu'il n'y a plus de gauche au Canada eu égard au score que fait aujourd'hui le nouveau Parti démocratique?
Il faut savoir que tout de même, le NPD n'a jamais formé un gouvernement au Canada. Donc, ça a toujours été une alternance là, dans les dernières années entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Donc, ce n'est pas un parti qui, à l'échelle fédérale, avait gouverné. Ils ont gouverné à l'échelle provinciale en Ontario. C'est un parti, généralement, qui fait de l'innovation au niveau des politiques publiques. Donc, ils vont influer le débat pour, justement, mettre sur pied des politiques de gauche. Donc ces politiques-là, souvent, sont introduites par le Parti libéral. Donc non, je ne dirais pas que la gauche est morte au Canada. Et justement, comme l'expliquait M. Jomain, le Parti libéral va devoir interagir avec d'autres partis, et notamment peut-être le NPD. Peut-être cela serait-il plus facile pour lui que le Bloc québécois. Donc peut-être encore le Parti libéral ira là, tenter d'adopter des politiques plus au centre-gauche pour se maintenir au pouvoir.
En attendant, tout ce que le NPD a contribué à obtenir lors de sa coalition, son alliance avec Justin Trudeau, jusqu'en septembre dernier, que ce soit un régime national d'assurance médicaments, une assurance pour les soins dentaires, une loi anti-briseur de grève que le NPD avait obtenue, tout ça ne lui a pas servi, manifestement, puisqu'il n'en est pas récompensé dans les urnes où les électeurs soit n'ont pas cautionné ces mesures-là, soit s'en sont désintéressés. Est-ce que on peut dire que l'élection au Canada, l'élection de cette nuit, s'est quand même fait un peu sur des enjeux internes où tout n'a été guidé que par les déclarations de Donald Trump et cet outrage qui lui est fait au Canada de dire « vous serez un très beau 51e État ».
Donc pendant un bon moment, vraiment le seul enjeu était vraiment celui de la relation avec les États-Unis d'Amérique. Et plus la campagne a avancé, plus on a commencé à parler des enjeux qu'on prévoyait parler initialement dans la campagne électorale. Donc au fur et à mesure, ces enjeux, par exemple, la hausse du coût de la vie, la difficulté d'accéder au logement, sont revenus un petit peu dans la campagne électorale. Ce qui a amené certains analystes à dire, par exemple, que si l'élection avait eu lieu plus tard, peut-être que le Parti libéral n'aurait pas eu une aussi bonne performance électorale, justement parce qu'on recommençait à parler de ces enjeux-là. C'est plutôt difficile de faire une campagne électorale de 36 jours sur un seul enjeu, qui est la relation avec les États-Unis. Un coup qu'on connaît les acteurs, on connaît leur réponse. Ensuite, il faut peut-être parler aussi des autres enjeux. Et les enjeux vers la fin de la campagne qui sont revenus, c'est un peu le coût de la vie, l'accès au logement et l'imposition.
Et le bilan de Justin Trudeau, Serge Jomain, est-ce que le bilan de Justin Trudeau a été fait? Il était premier ministre depuis 2015 quand il a finalement démissionné en janvier dernier. Le nouveau premier ministre canadien et son successeur, Marc Carney. Est-ce que la campagne s'est aussi faite sur ce bilan-là, ou c'est comme si on n'avait plus le temps et il fallait de toute façon répondre au président des États-Unis, à Donald Trump, qui multipliait les invectives?
Alors pour le Parti libéral, ça a été, je dirais, une chance exceptionnelle de pouvoir soudain effacer Justin Trudeau et venir avec un nouveau Premier ministre, dans le sens où on a quasi fait une croix sur son bilan. Alors le bilan, il est mitigé, il y a un certain nombre de critiques, notamment sur le plan économique, mais il y avait surtout une grande lassitude de la part des Canadiens. Et pour revenir en lien avec ce qu'a fait Justin Trudeau, il y a tout de même un domaine qui est peu apparu pendant cette campagne électorale, c'est la question environnementale. Et elle est intéressante parce que on sait que les Canadiens sont très attachés aux questions environnementales, et Trudeau a essayé de mener une politique assez dynamique, et il a notamment eu cette stratégie de mettre en place ce que l'on a appelé une taxe carbone, c'est-à-dire une taxe que payaient les Canadiens lorsque il faisait le plein d'essence, et ça a été très mal apprécié par une partie de la population. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dès que Marc Carney est devenu premier ministre, il a fait une croix sur cette taxe carbone, du moins ce que payaient les consommateurs, même si les consommateurs donc devaient payer pour faire le plein d'essence, mais une grande partie des revenus leur était ensuite rétrocédé. Mais donc globalement, Trudeau s'est fait connaître par son bilan en matière environnementale, par un bilan social qui n'est pas mauvais, on vient de le souligner, le NPD y est bien sûr pour quelque chose. Il a aussi voulu intervenir dans les questions liées aux droits des peuples autochtones, il n'a pas été aussi loin que ce que l'on pouvait espérer. Il ne faut pas oublier non plus que Justin Trudeau a beaucoup été attentif aux questions d'image, et on se rappelle que son premier premier gouvernement, c'était une première au Canada, était un gouvernement composé d'autant paritaire, autant d'hommes que de femmes, et il a voulu aussi se présenter comme un premier ministre féministe, etc. Et la particularité, c'est qu'à un moment, les Canadiens ont parfois trouvé que c'était un bon communicant, mais qu'il allait trop loin et que, d'une certaine manière, l'image dépassait la réalité, et ça l'a eu pour effet qu'il y a eu un certain nombre de critiques sur cette image. Dernier élément, c'est peut-être, et c'est quelque chose qui nous en Europe nous surprend, c'est ça, les mesures qu'il a prises relatives à la législation sur le cannabis. Si vous arrivez aujourd'hui dans un aéroport canadien, on vous dit, voilà, faites attention par rapport au cannabis, parce que au Canada, c'est tout à fait légal, alors que, bien entendu, dans la plupart du monde, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a là différentes mesures importantes, mais on peut dire que sur le plan économique, le bilan n'est tout de même pas excellent. Sur le plan de la politique internationale aussi, il y a eu une série de critiques, même au cours de, à la fin de son premier mandat. Il a un de ses conseillers, Jocelyn Coulon, qui a écrit un livre qui s'appelle « Un selfie avec Justin Trudeau », qui dit beaucoup sur cette image de Trudeau et qui a critiqué fortement sa politique internationale.
Donc Justin Trudeau critiqué de toutes parts pour son bilan interne, international également, politique, puisqu'il a refusé à deux reprises de rencontrer des députés de son camp, qu'il se met à s'expliquer sur ses échecs électoraux, de nombreux revers électoraux des libéraux au printemps et à l'été 2024 au Canada. Justin Trudeau démissionne le 6 janvier dernier et donne une conférence de presse sur le parvis de sa résidence à Ottawa.
Le Parlement ne fonctionne plus. Depuis plusieurs mois. Le Parlement a besoin d'un reset, a besoin de se calmer un peu les pompons pour se remettre au travail pour les Canadiens et pas à faire de la petite politique constante, ce qu'on est en train de voir des conservateurs. Je m'attends à ce que, si c'est pas moi qui va mener le parti dans les prochaines élections, la polarisation qu'on voit actuellement au Parlement devrait aussi se calmer un petit peu.
Le Parlement doit se calmer un peu les pompons, disait Justin Trudeau. On verra si les nouveaux députés, ceux qui sont élus depuis là, au fur et à mesure, les noms commencent à s'égrener depuis cette nuit au Canada, si la politique qu'ils mènent et comment ils comptent diriger un dialogue politique avec le nouveau Premier ministre Marc Carney. Est-ce que les résultats du Parti libéral de cette nuit, donc on rappelle 168 sièges, 43,5% des voix, Philippe Chassé, atteste d'après vous soit de ce que les mauvais scores à de précédentes élections, des élections provinciales l'année dernière, étaient identifiés comme ceux de Justin Trudeau en particulier, ou plutôt du Parti libéral en général. Enfin, qu'est-ce qui a été acté par ce vote de ceux qui ont voté pour le Parti libéral cette nuit?
Je crois vraiment que le vote pour le Parti libéral est un rejet. Du Parti conservateur, vraiment.
Plus qu'une...
Je crois bien. En fait, c'est assez intéressant. M. Trudeau a un bilan assez intéressant avec beaucoup de promesses qui ont été réalisées. On parle de 74% de ces promesses qui ont été réalisées. Donc, un bilan intéressant, des politiques qui ont un petit peu changé le visage du Canada. Certaines ont été mentionnées. On peut en ajouter d'autres, hein. L'aide médicale à mourir. On peut ajouter... l'augmentation des dépenses en infrastructure, notamment pour les transports en commun. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on le remarque bien en Europe. La qualité des transports en commun au Canada est moins importante. Donc, on a vu vraiment la face du Canada qui a changé. Mais je ne pense pas que les gens ont nécessairement voté sur ce bilan-là. Je crois vraiment que c'était beaucoup en réponse au Parti conservateur et encore là, à ce géant états-unien qui nous menace actuellement.
Blue sign is still a joke. Papa gouvernement want monarchy dans son corps. Souvent je fais les affaires last minute. Ma point mes income tax. Ça m'excite. Puis ça fait chaque semaine que je les ai filés. Check ma mailbox au moins 4 fois every day. Every day. Oh man, cause sais que c'était les 17 qui farinque d'arriver. Facker promofon pi your call to me fred your dick it swat au party jusqu'au lendemain pi point à woody sur les snacks ou la bose à cause mes poches sont pleines and I'm a blow a few.
Il s'appelle Petit Béliveau et sa chanson Income Tax, elle date de 2020, donc il parle des taxes. Alors c'est une chanson en chiac, c'est ça Philippe Chassé?
Tout à fait, donc c'est une variété du français acadien, donc du Nouveau-Brunswick.
Et elle porte cette chanson sur les remboursements d'impôts, c'est un thème porteur en chanson.
Voilà, exact.
Mais c'est vous qui nous avez signalé l'existence de cette chanson. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur le Canada, qui a élu cette nuit le libéral Marc Carney comme Premier ministre, le Parti libéral qui reste donc au pouvoir, ce qui n'était absolument pas gagné pour lui, ne serait-ce qu'encore en janvier dernier lors de la démission de Justin Trudeau. Parmi les résultats qui ont été particulièrement scrutés cette nuit, il y a ceux du Grand Toronto, les banlieues de Toronto, dont on dit qu'elles sont bien souvent arbitres de l'élection.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La ville de Toronto, sur les rives du lac Ontario, de l'autre côté de l'État de New York. La ville de Toronto, qui compte plusieurs banlieues, appelées parfois quartier 905 en référence à leur indicateur téléphonique. C'est une région cruciale dans les élections fédérales. Chaque parti essaie de ravir le plus de sièges possible dans ce territoire qui en dispose de 60 à la Chambre des communes. Et ce matin, en effet, c'est l'un des premiers gros titres parus sur le site de Radio-Canada après les élections. Les gains des conservateurs dans le Grand Toronto. Bonjour Guillaume Poiret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne, en géographie, aménagement du territoire. Vous travaillez sur le Canada et les États-Unis, notamment la Rust Belt, mais vous avez fait votre thèse sur la gouvernance du Grand Toronto. Alors, les libéraux remportent la quasi-totalité des sièges à Toronto, c'est ça selon les toutes dernières estimations?
Tout à fait, il leur en manque un seul, je crois, qui visiblement va passer conservateur, et c'est celui de York, si je ne dis pas de bêtises.
Donc ça, c'est vraiment dans la ville de Toronto, voilà. Mais si on regarde les résultats dans le Grand Toronto, donc dans la couronne de Toronto, là, apparemment, les conservateurs ont fait plusieurs gains.
Oui, ils ont a priori gagné 6 sièges. Alors là, encore une fois, les comptes sont pas encore finis, donc on peut avoir quelques changements parce que c'est valable globalement, c'est pas que pour Toronto et le Grand Toronto, c'est valable dans beaucoup de comtés. Il y a eu des sièges qui se sont joués à 3-4 voix. Donc pour l'instant, les résultats que l'on donne sont des résultats partiels, dans le sens où dans un certain nombre de circonscriptions, ils sont pas terminés de compter. À l'heure actuelle, ouais. 7 circonscriptions passeraient, dans le Grand Toronto, passeraient aux conservateurs alors qu'elles étaient tenues aux libéraux. Le décompte n'est pas toujours facile parce qu'entre-temps, il y a eu une réforme électorale et ils ont un peu modifié les circonscriptions. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas totalement dire que par rapport au tableau, mettons, de 2021, il y a des évolutions qui sont aussi nettes. Globalement, il y a eu des changements. On peut penser notamment à l'est de Toronto, enfin l'est du Grand Toronto, où vous avez une circonscription qui a été divisée en deux, Pickering qui est maintenant une circonscription à elle toute seule, et le nord qui pour le coup a voté conservateur et qui auparavant était rattaché.
Des circonscriptions qui ont également été créées puisque la population du Grand Toronto ne cesse d'augmenter. À Brampton par exemple, qui compte 700 000 habitants, cette population a augmenté de plus de 25% en 13 ans. Donc ça a décidé les autorités à créer une nouvelle circonscription, qui ne suffit pas à expliquer le fait que les lignes soient un petit peu troublées, les frontières du vote conservateur libéral, parce que d'habitude, on dit toujours que les banlieues de Toronto votent comme le reste du pays. Il y a même une sorte d'adage qui est « qui domine dans le Grand Toronto gouverne à Ottawa ». Là, en l'occurrence, ça a l'air d'être un petit peu moins clair.
Alors, c'est moins clair pour plusieurs raisons. La première, c'était il y a deux mois, on va être plus précis, deux mois. Doug Ford, qui est donc le premier. Alors, il faut savoir, en français, on ne fait pas de distinction, on dit toujours premier ministre. Les Canadiens disent Prime Minister, Premier ministre pour le Premier ministre fédéral, et il dit souvent Premier pour le Premier ministre provincial. Donc Doug Ford est le Premier ministre de l'Ontario. Il a été réélu triomphalement en 2025, il y a deux mois. Il est conservateur. Et l'ensemble quasiment du Grand Toronto a voté conservateur et ce sont les mêmes circonscriptions. C'est une particularité, c'est pas le cas parfois dans le reste du Canada, mais en Ontario, les circonscriptions fédérales et provinciales sont les mêmes. Donc les conservateurs ont vu ça et se sont dit « Ah, chic, 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 avec un peu de chance, on devrait pouvoir gagner dans pas mal d'endroits », ce qui, effectivement, quand on voit le nombre, ça ne se joue pas à grand-chose. Vous gagnez 30 circonscriptions, vous avez quand même une majorité qui commence à être intéressante à l'échelle du pays. Donc, ils se sont dit cela, mais les Ontariens ont une tradition. Généralement, ils votent au niveau provincial d'une couleur et ils votent au niveau fédéral d'une autre. Et
pourquoi c'est parce que les enjeux sont très différents.
Alors, je vais résumer ça par une expression française qui n'est pas la leur, mais qui est « on ne met pas tous nos œufs dans le même panier ». Donc, on préfère avoir McCarney parce qu'il nous plaît plus. Il est beaucoup plus résistant par rapport à Trump. Et avoir Doug Ford, qui est conservateur au niveau provincial.
Ministre provincial.
D'autant plus que les deux, pendant la campagne, se sont très bien entendus. Et c'est le deuxième point, c'est que Doug Ford n'a absolument pas soutenu, pour le coup, Poilievre. Il lui a même mis des bâtons dans les roues. Alors déjà, on ne l'a jamais vu. Poilievre a fait beaucoup de réunions, de meetings dans l'Ontario. Doug Ford n'en est jamais venu.
Donc là, on est toujours dans les différents dont nous parlait tout à l'heure Philippe Chassé, entre conservateurs. Beaucoup, en tout cas, n'aimaient pas du tout le style de Pierre Poilievre.
Tout à fait. Et par ailleurs, je pense que Doug Ford se voit bien en successeur de Poilievre en disant, écoutez, moi je réussis et j'ai la principale manière, j'ai les clés du pays parce que j'ai la principale province, j'ai la province la plus peuplée de très loin et accessoirement, je suis moi capable de gagner là où les conservateurs au niveau fédéral sont incapables de gagner. Et donc, élisez-moi comme chef du parti et vous verrez que nous aurons de meilleurs résultats et nous gagnerons.
Alors, même si le Premier ministre de cette province, de l'Ontario, était conservateur, néanmoins, dans le Grand Toronto, et les résultats tels qu'on les a pour l'instant semblent remettre tout ça un petit peu en question, mais étaient de plus en plus libéraux. Ce sont des banlieues qui votaient de plus en plus pour le Parti libéral. Comment l'expliquer ?
Alors, y a deux éléments qui se sont produits. D'une part, Toronto, la ville, a basculé libérale depuis 2015. Elle vient de perdre une circonscription. Il faut quand même savoir qu'il y en a une vingtaine. 24, si j'ai pas de mémoire. Depuis 2015, cette circonscription vote libéral intégralement. Auparavant, la bataille n'était pas d'ailleurs entre libéraux et conservateurs, elle était entre libéraux et nouveaux démocrates. Toronto a toujours été une plus à gauche, et pour le coup, là, on a une évolution un peu sensible depuis 2015. Pour le Grand Toronto, plus, on va dire qu'on a une double géographie. Plus vous êtes proche de Toronto, plus vous avez des circonscriptions qui jouxtent Toronto ou sont assez proches, plus vous votez libéral. Au contraire, plus vous vous éloignez de Toronto, plus vous avez tendance à voter conservateur. Il y a deux raisons. La première, c'est que vous avez généralement des populations qui sont issues de Toronto et qui finissent par gagner le Grand Toronto. C'est notamment des déplacements de populations qui sont issues de l'immigration, qui sont arrivées à Toronto en général et qui maintenant arrivent dans le Grand Toronto, qui achètent des maisons. Et qui votent plutôt libéral pour la plupart d'entre elles. Le deuxième point, c'est qu'également, c'est un changement dans le Grand Toronto, un changement sociologique qui est à l'œuvre depuis une dizaine, quinzaine d'années. Globalement, cette arrivée justement de populations issues de l'immigration fait que de plus en plus de migrants de première génération arrivent directement dans les provinces dans le Grand Toronto, ce qui modifie aussi la sociologie de ces espaces qui auparavant étaient des espaces très riches. Globalement, c'est un exemple que je donne toujours, vous cherchez les maisons les plus riches à Toronto, alors vous allez à Bridal Path qui est vraiment au centre de Toronto, enfin, qui est à Toronto même, et là vous avez un espace qui est très riche, ça s'appelle Bridal Path et c'est le surnom de Toronto, c'est la rue des millionnaires, et c'est pas pour rien. Mais sinon, vous allez à King. Et King, c'est dans la municipalité régionale de York, c'est dans le Grand Toronto et c'est parmi les espaces les plus riches de Toronto et du Grand Toronto. Donc vous avez une population qui était globalement riche, qui votait conservateur parce que le programme conservateur leur convenait. Et là, vous avez de plus en plus de gens qui sont en attente de programmes sociaux, qui sont en attente, qui ont une vraie demande sociale et qui arrivent dans les municipalités de type Vaughan, Markham, Brampton, Mississauga, qui jouxtent le Grand Toronto et qui, elles, pour le coup, ont une demande beaucoup plus importante en programmes sociaux et qui sont plus sensibles au discours des libéraux de ce point de vue-là.
De quelle immigration, en l'occurrence, s'agit-il ? Alors, on a de tristes actualités. On sait que l'immigration philippine est très importante à Toronto. Je ne sais pas d'ailleurs si, d'après vous, l'attentat a joué dans le vote ou pas. En tout cas, de quelle immigration parle-t-on ?
Alors, c'est vrai que c'est une particularité. Le Canada est une terre d'immigration, comme les États-Unis, mais ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Il n'y a pas de question latino au Canada. Les latinos ne représentent pas une très forte minorité, comme c'est le cas.
Ils s'arrêtent aux États-Unis, en fait. Voilà. Ils vont pas plus au nord.
Globalement, quand vous regardez la progression des latinos, les États qui sont à proximité de la frontière commencent à avoir une très forte proportion de latinos. Los Angeles est même une ville latino désormais. Et à mesure que vous vous éloignez, la proportion de latinos dans l'État, dans les États diminue. Et au Canada, elle est très faible. Par contre, vous avez deux sources d'immigration importantes. Alors, dans les années 70, c'était une migration européenne. Aujourd'hui, c'est une immigration qui vient principalement... Alors, StatCan appelle ça Asie du Sud-Est. Globalement, on parlera de populations qui sont originaires de l'Inde, du Bangladesh et du Pakistan, et surtout de l'Inde. Et la deuxième source d'immigration, c'est l'Asie de l'Est, et notamment la Chine. Voilà, ce sont les deux principales populations que vous trouverez à Toronto. On dit que Toronto, le Grand Toronto, c'est à peu près 55% aujourd'hui de populations issues de l'immigration, et... A priori, on est à 20% de population d'Asie du Sud-Est et 20% population d'Asie de l'Est.
Merci Guillaume Poiret, vous restez avec nous. Alors Philippe Chassé, vous êtes encore dans ce studio et on parlera plus précisément dans Culture Monde de la question migratoire jeudi, puisque le pays s'est quelque peu refermé ces dernières années à l'immigration. Alors Justin Trudeau avait au contraire voulu prendre le contre-pied de Donald Trump en se montrant très généreux, très ouvert à l'immigration, plutôt au début de son mandat. Pour conclure sur ces élections. Alors, les auditeurs pardonneront le côté parfois de ma part un peu brouillon parce qu'il faut vérifier chaque chiffre et Radio-Canada, je salue encore une fois leur travail, est très au fait de tout et on a toutes les 30 secondes une réactualisation des chiffres. Sur peut-être ce qui est intéressant de commenter, c'est le taux de participation à ces élections.
Tout à fait. Donc, on avait l'impression que le taux de participation allait être très élevé parce que beaucoup de personnes ont voté en avance lors des élections anticipées. Beaucoup de personnes ont aussi voté par la poste. Et au final, avec les chiffres qu'on a ce matin, en fait, on s'aperçoit que le taux de participation est très semblable à ce qu'on a eu en 2021. Donc, 63%. Et ce qui était déjà bien en baisse par rapport à 2019. Donc, 67%. Donc, c'est assez intéressant. On se disait, c'est une élection qui va être importante pour les Canadiens qui se sentent menacés. Et au final, le taux de participation est pas très élevé. Et ça, je pense que c'est peut-être une des surprises de cette élection.
Donc une sorte de mouvement peut-être aussi de répondre à l'appel de ces candidats qui avaient dit « il faut que vous me donniez un mandat fort pour que je puisse être un interlocuteur fort vis-à-vis de Donald Trump ». Alors c'est le cas de celui qui vient d'être élu Premier ministre, mais tous les candidats, enfin Pierre Poilievre aussi, disaient en quelque sorte quelque chose d'assez similaire, sauf que les partisans de chacun est allé essayer de donner un mandat fort. Donc les scores sont beaucoup plus serrés que prévu. Est-ce qu'on peut, Philippe Chassé, peut-être pour conclure, se demander si le Canada était une ligne éditoriale, entre guillemets, quelle direction donnerait le nouveau rédacteur en chef? Si je dis ça, c'est parce qu'il a été beaucoup dit que les libéraux jusqu'à présent faisaient des petites touches, comme ça, prenaient des petites mesures ici et là, qu'on ne voyait pas toujours bien le programme dans sa globalité. Là, l'actualité étant encore plus bousculée par ce qui se passe aux États-Unis et les invectives de Donald Trump, est-ce qu'on peut se demander si le nouveau Premier ministre a une ligne claire pour le Canada et exposer clairement?
Je crois que ce sera une unification des Canadiens dans les prochains mois qu'on va voir.
Donc un peuple uni.
Et les autres partis ont tout intérêt également à se ranger aussi pour...
Merci beaucoup Philippe Chassé. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques à Sciences Po à l'Université de Montréal. Je remercie Serge Aumin qui était en lien avec nous depuis Bruxelles, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Libre de Bruxelles, directeur du Centre interdisciplinaire d'études des Amériques. Et merci encore Guillaume Poiret, géographe et urbaniste à Paris Créteil. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous emmenez au Yémen ce matin, Catherine. Les rebelles Houthis accusent les États-Unis de crimes de guerre pour avoir tué des dizaines de migrants dans un bombardement.
Une nouvelle preuve, s'il en fallait, du drame humanitaire que vivent les exilés et toute la population civile dans ce pays du Moyen-Orient, en guerre depuis plus de 10 ans, rappelle le média panarabe Middle East Eye. 68 corps, au moins, gisent sous les décombres d'un centre de détention pour migrants africains de Saada, le fief des Houthis dans le nord du Yémen. Les blessés, à la tête, au thorax, aux bras ou aux jambes, ont été évacués vers des hôpitaux, montre le Washington Post, et la chaîne télévisée Al-Masira, contrôlée par les rebelles Houthis, parle même de 115 victimes sans préciser leur nationalité. Ce qui est sûr, ajoute l'agence de presse Reuters, c'est qu'il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis la mi-mars, depuis que les États-Unis ont intensifié leurs frappes aériennes contre les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen. Ils s'enorgueillissent, eux, de cibler les navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, de perturber la navigation commerciale mondiale et de tirer des missiles sur Israël. En soutien aux Gazaouis, écrit Al-Masira, la chaîne des Houthis. Mais il y a des changements de stratégie de part et d'autre, note le Guardian. Sous l'administration Trump, précise le Washington Post, les États-Unis ne ciblent plus uniquement les infrastructures militaires des Houthis, mais aussi leurs dirigeants, avec, semble-t-il, une grande tolérance au risque de dommages côté civil, alerte Air Wars, une organisation de surveillance basée au Royaume-Uni. Un grave mépris pour la vie des Yéménites ont également dénoncé des élus démocrates la semaine dernière dans une lettre adressée au ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, et que le Washington Post s'est procuré. L'armée américaine affirme, elle, que sa campagne aérienne a touché plus de 800 cibles au Yémen, indique le New York Times, dans le cadre de cette opération baptisée Rough Rider, cavalier brutal en français. Cela envoie également un signal clair à l'Iran, explique sur Fox News le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, ne vous frottez pas aux États-Unis, mais négociez le démantèlement complet de vos capacités nucléaires et alors vous n'aurez plus à vous soucier de votre avenir. L'administration Trump discute effectivement en ce moment avec l'Iran au sujet de son programme nucléaire, précise The Hill, et le pilonnage quotidien du Yémen est donc un élément de la négociation et les Houthis ne rendent pas les armes. Ils pourraient avoir pris les migrants comme des boucliers humains à côté d'un site de production de drones, affirme sur la BBC un ancien membre du groupe d'experts sur le Yémen du Conseil de sécurité de l'ONU.
Et les civils sont les premières victimes de cette guerre au Yémen.
Plus de la moitié de la population, soit près de 20 millions de personnes, ont besoin d'aide humanitaire, préviennent l'ONU et Middle East Eye, qui se demandent quand ce calvaire va prendre fin. La guerre civile dure depuis 10 ans donc au Yémen et l'Arabie Saoudite intervient depuis 2015 en soutien au gouvernement yéménite, un gouvernement que les rebelles Houthis des chiites combattent, soutenu, je le rappelle, par l'Iran. Près de 400 000 morts depuis 2014. Il faut mettre fin à l'hégémonie des Houthis, appelle de ses voeux le journal saoudien Ashark Al-Wassat, qui raconte dans un autre article comment les Houthis enrôlent des enfants de force ou sous de faux prétextes. Notamment dans les zones rurales, les rebelles promettent aux familles des paniers alimentaires, une aide financière et ils prétendent que leurs enfants participeront à des ateliers éducatifs pour améliorer la réussite scolaire. Mais il s'agit bel et bien d'embrigadement, souligne le journal israélien Yediot Aharonot. Et la campagne de recrutement pour ces camps militaires lancée dès février s'effectue cette année sous le slogan savoir et djihad. Pendant ce temps, le système de santé, l'économie sont exsangues au Yémen. Impossible, détaille la revue scientifique The Lancet, de faire face aux épidémies régulières de choléra, à la malnutrition chronique, aux inondations et aux tempêtes aggravées par le dérèglement climatique. Plus d'un demi-million de personnes touchées depuis la mi-août, estime The Lancet. Ibrahim, un yéménite, a par exemple été déplacé par les fortes inondations de Marib, une ville située à l'est de la capitale Sanaa, raconte l'ONU. Cet homme de 70 ans a dû porter son fils adulte handicapé sur son dos pour le mettre en sécurité. Ils ont tout perdu, leur abri, leurs biens, le vague sentiment de stabilité qu'il leur restait pour vivre désormais dans une tente provisoire exposée aux éléments, dépendant d'une aide qui pourrait ne pas arriver à temps, voire pas du tout. Les Houthis, pourtant ennemis de Washington, se sont d'ailleurs réjouis de la décision de Donald Trump et d'Elon Musk de fermer l'agence américaine pour le développement international. Les rebelles yéménites accusaient l'USAID de financer la guerre dans leur pays, écrit le média Al-Masira.
Et les migrants dans tout ça, Catherine ?
Eh bien, leurs conditions de vie ont également empiré, souligne The Hill. Depuis des années, des exilés africains débarquent au Yémen, bravant la guerre pour tenter de gagner l'Arabie Saoudite et d'autres pays riches du Golfe pour y travailler, explique le Washington Post. Les rebelles Houthis gagneraient des dizaines de milliers de dollars par semaine en faisant passer clandestinement ces migrants à la frontière. Des migrants éthiopiens, notamment, ont été détenus sans autre forme de procès, ajoute encore The Hill et le New York Times. Des exilés maltraités, victimes de violences sexuelles, voire tués au Yémen et en Arabie Saoudite, ce qui en fait des destinations parmi les plus dangereuses au monde en matière de migration. Près de 61 000 Africains sont arrivés au Yémen rien que l'an dernier.
Merci beaucoup Catherine Dutu.